en fin de semaine, la semaine prochaine c'est good. Désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Cheese 94.3.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Cheese 94.3.
Voyons, comment ça, ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle. Ouais!
Quand vous vous demandez
« C'est quoi cette toune-là? »
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur cheese.ca et cliquez sur l'onglet « Musique diffusée ». Bonne écoute!
Bon dimanche midi à tous, bienvenue à The Keywaydeners, votre émission préférée du dimanche midi, évidemment. Avec vous aujourd'hui, donc Jérémy Thibault, animateur de The Kiwi et des Nerds depuis maintenant plusieurs mois. Donc toujours un réel plaisir que d'être ici. Et à mes côtés, Nassim, donc, que vous connaissez bien, qui est chroniqueur récurrent depuis un certain temps. Bonjour Nassim.
Bonjour à tous. Bien sûr, là je pense à faire, on est sur un streak de 3 semaines de suite. Donc,
ouais. C'est un tour du chapeau, ça?
Exactement, hat-trick. Donc, bien content d'être ici. On en profite, en fait. Donc, comme là, j'ai des disponibilités, ben, j'en profite autant que je peux. C'est toujours un plaisir de faire l'émission. C'est toujours un plaisir de parler de jeux vidéo, d'art, de raconter des anecdotes. J'ai pas beaucoup le temps de jouer, malheureusement. Fait que je radote un peu sur les jeux que j'ai déjà joués. Et maintenant que... je fais du recyclage en masse, le plus j'y joue. Ben...
C'est correct, c'est important, ça protège la planète. Et dans une trentaine de minutes, donc, on va avoir deux invités spéciales qui sont Hélène Matt et Maya Fizet, qui sont respectivement ma co-réalisatrice et productrice sur le moyen-métrage désormais web-série Salut Gadou, ainsi que l'actrice principale. Donc, on les attend tout à l'heure. Mais d'ici là, on va s'envoyer tout de suite quelques anecdotes de semaine. Là où moi, bien évidemment, ça doit toucher Elden Ring, parce que ce jeu, c'est un chef-d'œuvre et je ne peux pas m'y arrêter. Je crois que j'ai un problème, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais plus sérieusement. Donc, de mon côté, les parties de Donjons Dragons sont terminées. C'est-à-dire que là, j'ai clôturé pas mal toutes celles que je faisais, les contrats qui me restent. Donc, on prend une pause pendant l'été. Ce qui est quand même assez drôle parce que généralement, les travailleurs autonomes, l'été, c'est le moment où ils travaillent le plus. Moi, c'est le moment où je travaille le moins. Donc, il n'y aura pas d'anecdote de Donjons Dragons avant un certain temps. Cependant, pour ce qui est des jeux vidéo, j'en ai plein. Dans Elden Ring, en fait, actuellement, je fais un deuxième playthrough, donc une deuxième... percée du jeu, cette fois-ci en tant que mage pur. Je joue accompagné d'un de mes amis, Vincent. Et on a découvert un spell qui s'appelle la comète. Sauf qu'on a aussi découvert qu'il y avait, dans le jeu, on a un mix of Wondrous Physique, que ça s'appelle. Donc, c'est une genre de potion qui donne différents types de capacités. Et l'une de ces capacités, c'est que t'as de la mana infinie pendant un temps X. Et tes pouvoirs sont plus forts. Le truc, c'est que Comet, ça brûle ta mana extrêmement vite, mais ça fait une tonne de dégâts. Et on s'est rendu compte que lorsque je buvais cette physique et que je lançais ce spell, j'étais capable de one-shot littéralement tous les boss. Ce qui trivialise, si vous me permettez l'expression, le jeu. On s'est donné la règle qu'on s'en servait juste qu'en cas d'extrême nécessité parce que c'est rendu trop facile. Donc, comme quoi, les gens qui se plaignent que le Elden Ring, lorsque tu joues mage et le mode facile, je vais devoir leur donner. C'est pas vrai dans les précédents sources, mais lorsque tu peux one-shot littéralement tous les boss, c'est qu'il y a un problème. Remarquez que je considère que c'est une bonne chose quand même qu'on ait cette option-là. Ça reste que l'objectif d'un jeu vidéo, c'est que ça soit le fun, puis c'est quand même plaisant de pouvoir anéantir la barre de PV d'un boss qui normalement te fait rend ta vie difficile et misérable.
Ben ouais, puis moi j'ai regardé ça de loin, là, Elden Ring, mais il y a beaucoup de gens justement qui disaient que peut-être c'était pas aussi accessible aux normies un peu, puis le fait qu'il y ait ce type de truc-là, peut-être ça le devient un peu plus accessible.
Ben tout à fait, en fait le truc c'est que le Elden Ring, c'est l'un des jeux From Software qui est le plus accessible, je te dirais. Okay. En termes d'accessibilité, l'autre plus proche, ça serait probablement Bloodborne, à cause de sa mécanique de parade, mais moi, en fait, mon ami avec qui je joue, Elden Ring, ils jouent ensemble, puis des fois, ils jouent même tout seul, puis ils trouvent ça plaisant. Lorsque les Dark Souls, il est juste pas capable, puis je suis un peu des groupes de communauté Dark Souls, puis je te dirais qu'il y a un consensus où ce que dans Elden Ring, si quelque chose est trop dur, ben, tu peux aller explorer ailleurs, il y a des builds, tu peux évoquer des amis. En ce moment, les serveurs de Dark Souls sont off à cause qu'ils voulaient protéger les serveurs d'Elden Ring le plus possible. Ce qui fait que là, si t'as de la difficulté dans le jeu, tu peux même plus te permettre d'évoquer un ami. Ça commence à rendre le jeu un peu complexe.
Là, ça devient pas mal complexe. C'est ça. Moi, je me rappelle, j'avais essayé de jouer à Dark Souls, puis ça marchait pas. Il y a comme 2-3 mois. Ouais. Ça marche toujours pas. Donc.
Les serveurs sont complètement off. On peut plus faire de PVP ni de PvE. Mais en fait, ni de PvE en multi. Fait que on a bien hâte de voir. Ils ont annoncé il y a pas longtemps dans un article qu'il allait bientôt remettre les serveurs debout. Je le souhaite. Pour autant que Dark Souls 2 a beaucoup de défauts, je vous dirais que le plus grand attrait, c'est son multijoueur. Puis si Dark Souls 2 a pas de PVP, il doit avoir perdu une grosse partie de sa communauté en termes de joueurs.
Ouais. moi, en termes d'anecdote, je vous dirais que hier, j'ai essayé de jouer à un jeu vidéo, mais malheureusement, j'ai pas pu. C'est pas mal mon anecdote. Je sais pas si j'ai raconté déjà l'anecdote aussi où il y a eu le gros ouragan. On avait-tu parlé de ça la semaine dernière?
Non, on en a pas parlé, c'est vrai. On a fait comme si ça avait pas existé, mais ça s'est produit, ça. Hein?
Ben oui, c'est vrai. Il y avait un gros ouragan là qui s'est passé. Moi, j'étais en vélo. Puis le vent me poussait tellement, je pensais que j'allais m'envoler. Fait que là, super rapidement, il y avait un café pas loin. Super rapidement, je débarque du vélo, je l'attache, tout croche. Hein, tout croche, je me dis, s'il part, il part. Moi, au moins, je pars pas. Fait que je l'ai attaché, je suis rentré dans le café. Puis je me suis fait des amis. Tu sais, dans la détresse, on devient tous amis. Parce que là, il y a un autre cycliste qui a attaché son vélo sur le mien. Fait que c'était genre, bon, ben, on n'a pas le choix de devenir amis. Parce qu'il faut qu'il enlève son vélo avant que. Sinon, je suis coincé là.
Ça devient compliqué.
Ben oui, puis juste en face, mais ça, c'est tragique. Enfin, c'est tragique parce que juste en face, il y a un arbre. Il y a des arbres qui sont tombés, hein, justement. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos régions. Mais
la semaine dernière, c'était violent.
Ouais, nous, ben, dans le fond, il y a un arbre qui est tombé juste en face du café où j'étais, donc j'étais à Limoilou, juste en face du café, il y avait une voiture, il y a un arbre qui est tombé sur la voiture, perte totale. C'est vraiment perte totale. Bon, c'était pas la voiture de l'année, en fait, je pense que le gars, c'est correct, là.
C'est quand même le genre de chose qu'on souhaite pas qu'il lui arrive. On serait dans un GTA, on pourrait penser à autre chose. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué.
c'est vraiment tragique, mais au moins, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grands blessés. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de grands blessés. Il y avait une alerte qui s'était faite, en plus.
À plusieurs reprises, d'ailleurs.
Puis, spot on, l'alerte, là. 19-14, puis à 19-15, ça a commencé vraiment. Tu avais une minute pour te préparer, là.
En même temps, pas à leur défense. Moi, j'ai reçu une alerte à 19h04, à 19h07, à 19h09, à 19h12, à 19h14. Okay, c'était dur de se tromper.
Ben, moi, je ne l'ai juste pas eu. Ben, je ne vais pas vous mentir. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je n'ai pas eu. C'était pas mal ça, puis justement, je suis allé faire une randonnée cette semaine, puis même chose, dans la randonnée que j'ai faite, là, il y avait toutes les arbres étaient tombés, ben pas toutes, mais il y a beaucoup d'arbres, puis c'est des gros arbres, des vieux arbres qui sont tombés. Il y a même un truc assez spécial, dans le fond, il y a comme un escalier auquel on a accès, Puis l'escalier, dans le fond, les arbres sont tombés dans l'escalier. Donc pour monter l'escalier, t'as l'impression de devoir rentrer dans le monde de Narnia, dans une sorte de portail là. Puis c'est assez spécial. Bon, c'est vraiment malheureux parce que
c'est du game design. T'étais pas encore supposé te rendre dans cette zone là. T'étais pas assez haut niveau.
Mais c'est vraiment ça. Tu sais, tu rentres là comme si t'étais dans Narnia là. Tu dois faire attention aux branches et tout. C'est les arbres. C'est assez féerique, effrayant entre guillemets. La forêt qui se déchaîne. Je me dis, imagine t'es en pleine tempête puis t'es coincé là-dedans. En tout cas, ce genre d'événement-là nous rappelle que ben, on est chanceux, c'est pas chaque jour que ça arrive. Aujourd'hui, mm-hmm. il fait beau. Hier, c'était correct aussi. Fait que, on en profite des belles journées comme celle-là. En fait, c'est pas mal ça un peu mes anecdotes. Je sais pas toi si t'avais raconté, t'es-tu arrivé quelque chose de spécial pendant la tornade, Jérémy?
Ben moi, certains événements, là, mais ça va aussi faire écho avec quelque chose qui m'est arrivé hier pendant que j'étais en train de jouer à Elden Ring avec mon ami, justement, où ce que on aurait... Moi, je fais partie des seules personnes dans Sainte-Foy qui ont conservé le courant. Ce qui fait que moi, j'avais le droit de continuer de gamer, pas les autres. Mais on savait pas pourquoi, parce que littéralement, il y avait que mon édifice qui avait encore du courant dans tout Sainte-Foy, ou presque. Hier, on a reperdu le courant une deuxième fois. Cette fois-ci, on ignore pourquoi. Hydro-Québec avait rien mentionné. Mais il s'avère qu'on a deux systèmes électriques à l'intérieur de la bâtisse, parce que lorsqu'on a perdu le courant, c'est certains trucs très spécifiques, tels que notre Internet ou le micro-ondes ou d'autres affaires qui sont débranchées. Puis le reste, c'était encore tout à fait fonctionnel. Fait que certaines lumières fonctionnaient plus, d'autres fonctionnaient. Puis quand le courant est revenu, fait qu'on a deux systèmes électriques, ce qui fait que là, ben, j'ai changé ma prise pour pouvoir mettre mon ordinateur sur le système électrique qui ne se donne pas.
Ah, ben, c'est bon, ça, c'est excellent. Ben. Chanceux, alors, je te dis.
Oh, ouais, c'est.
Je pense que ce serait ça pour nos anecdotes.
Donc, si tu veux te lancer dans ta chronique, ton sujet d'aujourd'hui.
Ben. Mon sujet d'aujourd'hui, encore une fois, moi je fais faire le travail avec les autres chroniqueurs aussi, là, les amis. Je pense que vous avez remarqué avec mon test la semaine dernière. Fait que aujourd'hui, on va travailler ensemble.
Yes.
Donc, moi, mon sujet aujourd'hui, c'est plus en fait une réflexion que j'ai envie de mener sur l'art en général, mais sur les jeux vidéo aussi particulièrement. Puis sur l'effet en fait que ça a de consommer certains types de jeux vidéo, ou de consommer certains types d'art en général. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, par exemple, lorsqu'on voit certains films, ben, ça nous rend triste. Lorsqu'on lit certains livres, ça nous amène certaines réflexions, puis ça nous mène vers certaines pistes de solutions en général. Mm-hmm. Puis, ben, ça s'applique en fait par tous les types d'art qu'on consomme. Puis, j'ai l'impression que de plus en plus, on oublie que l'art qu'on consomme a un impact important sur nos jeux, sur nous. Puis je vais dire ça vraiment par rapport à moi-même. Mm-hmm. Tu vois. Moi, des fois, j'écoute de la musique très violente, etc. Puis tu oublies que la musique violente que tu écoutes a un impact sur toi. Mm-hmm. Puis ça vient se répercuter partout. Tu vois. On n'est pas en train de dire que si tu joues à des jeux vidéo violents, ça te rend violent.
Parfois, c'est même le contraire.
C'est ça, exactement. Ça n'a rien à voir. Même que, exactement, des fois, ça permet de te canaliser ouais. Puis justement de te défouler.
Genre une histoire par rapport à ça, justement.
Dans tes jeux vidéo. Donc, c'est vraiment important. Mais quand même, ce que je trouve, c'est que des fois, justement, on écoute de la musique sans vraiment y penser. Je trouve que, justement, mm-hmm. tu sais, des fois, c'est important d'avoir cette réflexion-là, de se dire, OK, moi, je suis en train de jouer à ce jeu-là. Est-ce que c'est pour justement pour défouler ma rage ou ma colère, ou est-ce que je joue à ce jeu-là pour créer de la colère, tu vois, justement un jeu qui crée de la colère, on va dire, c'est League of Legends. un jeu qui crée de la colère. Donc des fois tu te poses la question, tu te dis, quand je joue à ce jeu-là, est-ce que c'est parce que à la base j'étais triste ou quelque chose, puis que je voulais évacuer ce sentiment-là, ou bien est-ce que lorsque je joue à ce jeu-là, il vient créer ce sentiment. Et du coup, je pense que quand ce jeu crée un sentiment négatif, c'est là qu'il faut s'arrêter puis se dire, OK, bon, on va peut-être prendre une pause.
Ouais, exact.
On va peut-être prendre... Puis là, on parle des jeux vidéo, mais pour moi, ça est encore plus...
C'est vrai que tous les médiums, Donjons Dragons inclus.
Encore plus
plus insidieux dans les autres types d'art, je trouve. Mm-hmm. On s'en rend pas compte parce que, en fait, le jeu vidéo, personnellement, moi, je trouve que c'est vraiment un excellent médium parce que mm-hmm. je pense que c'est celui où on s'en rend compte le plus. Tu joues à FIFA, tu perds 4-0, tu prends ta manette, tu la lances. Tu penses que tu comprends que, wow, on prend une pause, tu vois, parce que c'est des comportements qui arrivent. Okay, donc, tu comprends, tu dis, OK, non, on prend une pause. Par contre, quand tu écoutes justement de la musique violente ou bien tu écoutes des films qui sont négatifs pour toi, là, des fois, tu t'en rends pas compte. Ça vient te créer des processus de réflexion sans le savoir. Sans le savoir, insidieusement, quand tu vas être toi-même tout seul, puis tu vas réfléchir, ce film-là t'a influencé sans que tu le saches. Tu es présenté face à une situation, puis tu es présenté face à une situation, puis tu réfléchis comme le personnage d'un des films que tu as vu, sans le savoir nécessairement, parce que c'est ce que tu consommes, en fait. Donc,
mais c'est aussi la raison pour laquelle en cinéma, puis ça, c'est quelque chose que je mentionnais à mes jeunes lorsque j'étais encore enseignant en cinéma. Déjà, il y a un livre qui s'appelle « La fiction crée de l'empathie » de Neil Liederland. Je vous en avais parlé, je crois, à la toute première semaine que j'avais repris l'émission de radio parce que c'était dans le contexte du Donjons et Dragons. Mais c'est vrai aussi dans le cinéma, ben en fait, la fiction en général, où ce que si vous voulez parler d'un problème mental, si vous voulez parler d'une maladie mentale, faites vos recherches. Comme c'est pas une question de se censurer, c'est une question de offrir la bonne information, parce que pour beaucoup de gens, en fait, le cerveau, lui, il va aller chercher les référents qu'il a vis-à-vis d'une situation, et c'est très récurrent qu'un référent commun que les gens vont avoir, c'est le cinéma, par exemple. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, c'est beaucoup, beaucoup plus simple dans mon groupe d'amis de donner des exemples lorsque je mentionne un film qu'on a vu en commun que si je leur parle de qu'est-ce qui m'est arrivé moi, parce que qu'est-ce qui m'est arrivé moi, c'est mon ressenti personnel. Je peux pas le partager avec eux. Ce qui est, par contre, le ressenti qu'on a eu lorsqu'on écoute un film ou lorsqu'on a joué à un jeu vidéo ensemble, ça, c'est quelque chose qui est partagé. Puis c'est là justement tout l'attrait de cet aspect-là, où ce que si... Ben en fait, le cinéma, c'est un outil de propagande quand même incroyable. Je viens de penser à l'exemple à l'instant, mais pendant très, très, très longtemps, c'était les Russes, les méchants dans les films. Hein. Mais ça, on est dans le contexte de la guerre froide. C'est pas par accident, c'est pas un hasard. Puis après les attentats du 11 septembre, c'est un autre groupe ethnique qu'on s'est pris comme étant les méchants dans ces films-là. Puis le simple fait que ça soit utilisé, puis il faut garder en tête que dans ce cas-ci, c'est un peu une machine propagandiste. C'est vrai dans beaucoup de contextes. Lorsque je vais penser à, par exemple, Black Panther, pour aller dans des sujets un peu moins polémiques, le fait qu'on ait un des premiers super-héros noirs de l'histoire de Marvel, ça a vraiment parlé à beaucoup de gens, parce qu'au final... Ça parle de l'Afrique, ça parle de choses qui, normalement, ne sont pas mentionnées dans les Marvel ou dans les autres trucs de super-héros. C'est important d'avoir sa représentation, en fait.
Bah oui, c'est ça, exact. Mais, tu sais, juste justement pour revenir un peu plus au niveau du sentiment, sans nécessairement aller dans. Au niveau du sentiment, tu sais, quand tu disais, par exemple, si tu veux exprimer une certaine situation à quelqu'un qui a des référents de jeux vidéo comme toi, mais qui ne comprend pas nécessairement la situation. Justement, hier, j'ai regardé, c'était drôle, c'était un meme sur Twitter, là, j'avais trouvé, puis, tu sais, il y a un gars, il a fait un mauvais coup en échec, puis là, les gens, ils disaient...
Oui, okay, tu l'as envoyé.
Les gens, ils disaient, peux-tu expliquer ça dans les termes de League of Legends? Peux-tu expliquer ça dans les termes de FIFA 2020? Oh. Peux-tu expliquer ça dans les termes de Elden Ring? Peux-tu, tu sais... Parce qu'en fait, c'est ça, moi, j'ai regardé le move en échec, puis je comprenais pas. Genre, tout le monde riait, et je comprenais pas. Puis là, après, tu vois, quelqu'un dit, pouvez-vous expliquer ça dans les termes de League of Legends? Puis là, ben, pour les gens qui connaissent un peu League of Legends, celui qui a expliqué ça dans les termes de League of Legends, il a dit, ben, imagine, tu es... T'as Janna, puis tu as... Elle fait juste hint là dès le début, tu sais.
Ou alors.
Open le Nexus, open mid à 3 minutes.
Le jungler, il est cleans dans la jungle avec Taric, genre des trucs
c'est
comme ça.
C'est-à-dire. Le fait justement d'avoir des référents comme ça de jeux vidéo, ben, déjà, ça vient créer justement. Ça vient plus facilement expliquer une situation. Mm-hmm. Donc, vu qu'on partage le même jeu vidéo, le même film, ça vient plus créer une situation. Mais au-delà même, tu sais, de l'explication puis du sentiment, moi, ce que je veux vraiment parler aussi, c'est de se poser toujours la question, parce que comme tu disais, justement, tu sais, le référent culturel, par exemple, par rapport à une certaine situation, si on l'a jamais connu, tu sais, pas si tu as la dépression, des trucs comme ça, ou l'anxiété, puis tu regardes des films, puis ils en parlent, puis eux en parlent mal, ben, ça vient créer un danger de fausse représentation face au spectateur, puisque...
Ben, c'est aussi que le seul référent que tu vas posséder, parce que personne ne t'a jamais parlé de maladie mentale, exact, c'est le cinéma. Et que tu le veuilles ou non, le fait que ton exact seul référent soit... Parce faut y penser, là. C'est pas quelque chose du passé de se dire à l'époque où, je pense que c'est les histoires des pays d'en haut, là, où ce que le l'antagoniste, c'est Séraphin. Il y a des gens qui allaient au studio de Radio-Canada pour porter des vivres, à certains personnages, alors que c'est une fiction. Et, il y a des gens qui font pas la différence entre Geoffrey Baratheon, le personnage, et l'acteur qui le joue. Il y a des gens qui vont le voir dans la rue pour lui dire à quel point c'est une merde, alors que c'est juste un rôle. Comme il y a quelque chose à ce niveau-là où ce que le cerveau il fait pas nécessairement cette différence-là de manière automatique, parce que si c'était le cas, ben il y aurait pas des gens qui se comporteraient comme ça.
Ben, exact, mais surtout parce que justement ça, c'est à quoi que ça me fait penser, c'est parce que c'est ça l'affaire, exact. L'inconscient, c'est bien beau là que tu le penses que ah non, je sais que c'est un personnage là, mais est-ce que ton inconscient va le savoir tant que ça? Mm-hmm. Puis, tu sais, je veux dire, même moi, quand j'écoute un bon film, puis que le personnage est vraiment bon, après, je le revois dans une autre série, ben, j'arrive pas à me concentrer.
Daniel Radcliffe, qui est Harry Potter, ouais, pour le reste de sa vie.
C'est ça, parce qu'en fait, surtout, tu te dis, surtout quand la première série était fantastique, puis que lui était vraiment bon, puis là, tu le retrouves dans une deuxième série, puis là, c'est moins bon déjà la série, puis lui il était un peu moins bon. En fait là, c'est genre il peut pas compétitionner en fait avec lui-même, tu vois. Mm-hmm. En fait, c'est vraiment tu sais, on pense qu'on est capable, mais des fois on est juste pas capable, puis c'est correct aussi de pas être capable, puis de se dire OK, ben, mais je trouve que c'est important justement d'avoir quand même malgré tout la réflexion, tu sais, de juste avant justement de regarder un film ou même après, tu sais, de se poser un petit 2-3 secondes, puis de se dire OK, c'est quoi ça m'a fait ce film là, puis quel type de comportement ça pourrait m'amener à faire. Puis je trouve justement on sous-estime ça. Je trouve justement on sous-estime ça, parce que on pense justement que ben, notre subconscient, etc., ou même des fois on pense que ce travail-là est inutile, mais des fois on pense justement que ce travail-là est inutile, mais c'est vraiment plus utile qu'on le pense. Personnellement, c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus possible, puis ça va même plus loin que juste analyser le film en tant que tel. Parce que surtout, quand on écoute le même type de film sur une longue durée, tu sais, imagine que tu écoutes des films tristes tout le temps. Okay, ben, à un moment donné, tu vas juste être triste à cause de ces films-là. Tu écoutes des films, justement, des films trop ben, là, joyeux, je sais pas. Là. Ce serait le fun si tu écoutes des films. J'ai l'impression même. Ben, ça, encore une fois, c'est vraiment important. Moi, le but de cette chronique-là, je partage mon ressenti à moi. Il n'y a rien de scientifique dans ce que je suis en train de dire. Là. Puis, moi, ce que je veux partager, c'est aux gens qui nous écoutent, c'est de faire cette même réflexion-là avec nous. Puis aussi, ben, n'hésitez pas à venir commenter avec nous, ou même à nous écrire, tu sais, par rapport à ça. Tu sais, ça vous fait quoi d'écouter plein de films tristes ou plein de films violents ou plein de films...
Et même, pourquoi est-ce que vous les écoutez, hein? Parce que parfois, c'est un choix conscient.
Tout à fait, exact. C'est ça, quand le choix est fait, mais aussi, c'est juste d'avoir cette réflexion-là. Posez-vous une question. Dans la semaine dernière, j'ai écouté quoi? Tu sais, puis vraiment, les gens sous-estiment aussi... C'est quoi l'art, tu vois? Parce que les gens, ils pensent que l'art, il faut vraiment que ça soit un artiste indépendant, puis tu sais, qui n'est pas compris, etc. Mais genre, Star Wars, c'est de l'art, Lego Batman, c'est de l'art, tu sais.
Exact, exact.
Fortnite, c'est de l'art, tu sais.
Ben, un truc qu'on oublie, en fait, c'est que même si on parle de méga corporation, c'est-à-dire que Disney, forcément, c'est une entreprise, ils pensent à l'argent, puis oui, il y a des décisions politiques qui sont prises au travers de ça, mais ça reste que les personnes qui travaillent pour eux, ce sont des réalisateurs, ce sont des scénaristes, ce sont des gens qui ont réellement quelque chose à raconter. Les films Marvel, pour autant qu'on peut dire que c'est mainstream, reste que tu peux dégager des messages dans ces films-là.
Ben, même aussi, je veux dire, même quand ça dégage pas de message, c'est de l'art aussi, puis c'est de la consommation. Dire justement, tu fais une game de Fortnite, là, Battle Royale, il y a pas d'émotion, là, il y a pas de message là-dedans, mais c'est ce que t'as l'impression, il y en a quand même, entre guillemets. Puis, je veux dire, le message, ben, c'est celui que toi, tu lui donnes, là, finalement. Mm-hmm. Parce que, c'est ça, il y en a quelqu'un, il va jouer à Fortnite, puis s'il aime ça, il trouve ça beau, c'est pour se relaxer. Il y en a un, c'est pour se défouler. C'est la, puis c'est la même chose avec League of Legends. Tu y joues pour... ça dépend pourquoi tu y joues.
C'est ça, ça dépend de tes intentions, de tes motivations. Ben, pour en venir au livre de Neil Lederland, de la fiction Créer l'empathie, un truc que j'avais trouvé super intéressant puis que j'avais moi-même appliqué dans mes parties de Donjons Dragons. Puis je pense que je l'ai mentionné vite fait à la radio, mais pour nos nouveaux auditeurs, j'ai un de mes joueurs qui, lui, c'était arrivé à quelques reprises qu'il fasse des répliques homophobes. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai volontairement placé un personnage que je savais qu'il allait triper dessus, donc qu'il allait vraiment beaucoup l'aimer. Puis ben, j'ai fait que ce personnage-là avait un petit copain, genre était homosexuel. Puis tout de suite, à la seconde où il s'est rendu compte de ça, on n'a plus entendu une seule réplique, alors que pourtant, c'est un personnage de fiction. Il sait que moi, ça ne m'atteint pas directement, sauf que ça n'arrive plus, encore une fois, parce que même si la fiction crée de l'empathie, bah, le fait que le personnage n'existe pas, le cerveau, il ne s'en rend pas forcément compte. Pourquoi est-ce qu'on pleure lorsqu'un chien meurt dans un film, par exemple? Là, j'allais mentionner Hachi, mais ça, c'est une histoire vraie. Mais ben, c'est parce qu'on est capable d'avoir un référent commun, de se dire, OK, si moi, mon animal de compagnie allait mourir, comment est-ce que je me sentirais? Puis on vient projeter cette émotion-là. Sauf qu'encore une fois, c'est une question de ça va chercher notre vécu. Par exemple, si moi, j'ai jamais vécu ce que c'est que le deuil, puis que j'écoute un film qui parle de deuil, ça viendra pas me rejoindre.
Mm-hmm. Mais c'est aussi, c'est, tu vas peut-être penser que le deuil est comme ça, tu vois. Mm-hmm. Moi, je sais pas si je l'avais raconté ici, mais pour les gens qui connaissent Naruto, moi, Naruto, dans le fond, je l'ai toujours lu. Donc,
le manga.
Je l'ai lu comme le manga. Puis avant, moi, j'ai regardé dans Dragon Ball Z. Puis dans Dragon Ball Z, quand ils sont en Super Saiyan, ben, quand ils font le Kamehameha, là, c'est très geek, là, les amis. Donc, attachez vos tuques. Là.
The Kiwi Dino, c'était à la bonne place pour ça.
Attachez vos tuques. Là. C'est vraiment le seul moment où vous allez me voir avec des référents culturels très, très geek. Là. Ça remonte à quand j'avais 9 ans. Fait que j'ai toujours Dragon Ball Z, un Super Saiyan, il lance le Kamehameha, donc un super pouvoir qui est jaune, de couleur jaune. Puis là, dans Naruto, le Rasengan se lance aussi avec les mains. Là, moi, automatiquement, je me suis dit, ben, le Rasengan, il est de couleur jaune. Donc, je lisais le Rasengan de couleur jaune. Puis là, j'arrive la première fois...
Pour ceux qui
ne
savent pas, les mangas sont en noir et blanc, normalement.
Exactement. Ah oui, c'est ça, exact. Les mangas sont en noir et blanc. Fait que c'est vraiment, c'est libre cours à ton imagination. Puis, justement... on vient connecter avec les anciens référents culturels qu'on a eu. Donc les anciens référents, c'était Dragon Ball Z, c'est-à-dire que il y a un pouvoir qui se lance dans les mains, puis ben ce pouvoir-là est jaune, puis moi je le trouvais tellement cool jaune, mm-hmm. Je l'ai automatiquement copié-collé comme étant jaune dans les mains de Naruto. Puis là je regarde la première fois Naruto, puis là je vois un Rasengan bleu, je fais comme wow. Qu'est-ce que c'est ça, man? On m'a menti, là. C'est ça, j'ai dû lire pendant 2 ans sans savoir que le Rasengan était bleu. Puis là, t'arrives, t'es complètement choqué.
Le chakra, en général, c'est bleu. Hein. Puis même Kyuubi, son chakra est rouge. Ça par contre, c'est un peu plus facile à retranscrire dans le manga parce que lorsque c'est rouge, c'est un noir un peu moins foncé.
Exact.
Mais c'est ça, il y a des couleurs qui sont très difficiles à retranscrire. Lorsque, par exemple, si tu vas chercher le médium de la bande dessinée, ben ça, c'est très coloré. On n'aurait pas eu ce problème-là. Mais je trouve que ce que tu mentionnes, c'est un très bel exemple de le cerveau va aller chercher des choses qu'il a vues dans de la fiction. Dans ce cas-ci, c'est de la fiction envers de la fiction. Mais si tu n'aurais pas écouté Dragon Ball, a priori, dans ta tête, le Rasengan n'aurait jamais été jaune. Tu aurais imaginé ta propre couleur, probablement. Hein?
C'est ça, tout à fait. Ben,
la réalité, on ne peut pas 100% savoir, mais il y a quand même des études qui ont été faites qui ont démontré que certains comportements, on les reproduit particulièrement lorsqu'on est enfant. Et ce n'est pas une mauvaise chose en passant, parce que ça peut aussi être un véhicule pour faire « OK, l'enfant a eu ce comportement-là qu'il a vu dans une série ». Maintenant, je peux lui expliquer que dans le contexte de la série, c'est correct parce que c'est de la fiction, mais est-ce qu'on... fait que ça peut être un vecteur de discussion, ça peut être un véhicule d'idées. Puis ça, je trouve ça intéressant, puis je trouve ça même très, très, très important. Tout à l'heure, je vais vous parler de Stranger Things. Puis dans Stranger Things, notamment, on parle beaucoup des années 80, des années 70, puis c'est très, très, très fidèle d'un point de vue technologique. Là. C'est-à-dire que tu verras pas de téléphone cellulaire dans Stranger Things. Là. Ça n'existait pas à cette époque-là. Ben, juste ça, même si c'est dans un contexte de fiction, ben, moi, ça peut me donner une meilleure idée de ce à quoi ça ressemblait les années 80 aux États-Unis.
Par exemple.
Parce que ben, y a un travail de recherche qui a été fait. Mm-hmm. Probablement que le réalisateur, c'est une époque qu'il a connue, parce qu'il doit être un peu plus vieux que moi, j'imagine.
Non, mais surtout aussi...
On est des jeunes, nous.
Ce que tu disais, en fait, c'est ça. Là, l'exemple est vraiment plus intéressant que je pensais. Pour vrai, waouh, félicitations à moi. L'exemple est beaucoup plus intéressant. Puis étant...
Je vais te faire écouter des films qui parlent de narcissisme, Nassim.
Oui, c'est ça. Non, mais justement, en fait, c'est parce que cet exemple-là fait révéler deux choses déjà sur ma personnalité. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui donneraient juste pas de couleur au Rasengan, mm-hmm. qui donneraient juste pas de couleur. Il le voit noir et blanc, ben pour lui, il est noir et blanc, tu vois. Mm-hmm. Alors que moi, automatiquement, mon cerveau vient de remplacer la couleur avec ce que je l'avais associé déjà. Ça veut dire que ça vient dire quelque chose sur ma personnalité, mm-hmm. ou des fois, justement, peut-être je prends trop des préjugés ou des trucs comme ça, des mm-hmm. assumptions. Okay? J'assume des choses, des fois.
Exact. Dans ta tête, c'était jaune alors qu'il y a littéralement aucune preuve, aucun témoignage fait que c'était jaune.
C'est ça, c'est noir et blanc, littéralement. En fait. Bon, ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose.
Le cerveau aime interpréter.
Exactement. Puis la deuxième
ça, c'est
chose...
Ça, c'est de la science pure.
Exact. Puis la deuxième chose, c'est vraiment aussi... Ben, là, comme j'avais vu Dragon Ball, je l'associe à jaune, mais peut-être si j'aurais vu une autre série dans laquelle ils avaient un pouvoir des mains qui se lancent, qui était rouge, peut-être ça aurait été rouge aussi, tu vois. Mm-hmm. Ou si j'avais pas de repère référent, peut-être j'aurais inventé une couleur moi-même. Tu vois. À ce mm-hmm. niveau-là... Ça va venir vraiment dépendre, mais encore une fois, ça vient vraiment, ça revient un peu à l'objectif là de ma chronique, qui est que, tu sais, je me suis fait influencer par Dragon Ball Z sans m'en rendre compte, parce que moi, quand j'étais jeune, j'en ai vraiment consommé. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, ça, je me rappelle, ça passait genre le matin, le midi, le soir.
Ouais, c'était
en reprise. Fait que là, quand tu regardes l'épisode du matin, ben t'as vu l'épisode du midi puis du soir, là, tu les as toutes vues. Mais je l'ai répété, tu sais, j'étais jeune. Quand on est jeune, on aime tout le temps regarder les mêmes
émissions. Ouais, ben, les belles explosions font boum boum, là.
C'est ça, exact. fait que, tu répètes ça, en fait, ça vient tellement t'influencer, puis c'est la même chose, tu sais. Si à chaque jour, je joue à des jeux dans une même thématique, okay, quel est l'impact? Mm-hmm. Puis même des fois, je peux vous inviter je vous invite justement à peut-être faire un exercice de vous dire, OK, ben là, je vais pendant 20 jours, 21 jours. Ça, c'est un peu plus scientifique, mais je ne suis pas encore sûr. En fait, il n'y a rien de scientifique aujourd'hui, là, inquiétez-vous pas.
C'est de l'opinion dans son contexte.
C'est de l'opinion. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est après 21 jours, on change une habitude. Fait que des fois, je vous dis, c'est une invitation que je vous fais. Par exemple, prenez 21 jours, puis arrêtez de jouer à un certain type de jeu. Essayez de jouer à un autre type de jeu. Ou, tu sais, vous écoutez du rock. OK, c'est assez le rock, là. On va écouter du rap ou on va écouter un autre type de musique.
C'est aussi un bel exercice pour ouvrir ses horizons.
Exactement, c'est ça. C'est l'exercice, il se fait en deux choses. C'est d'évaluer l'impact que certaines habitudes de consommation ont sur nous. Donc, artistique.
Ça peut être autant positif que négatif. Hein?
Exactement. Parce qu'après les 21 jours, vous allez vous rendre compte, OK, non, j'ai vraiment besoin de ça. Mm-hmm. Puis c'est vraiment bénéfique pour moi. C'est ça qui me motive. C'est ça qui me fait ça. Puis aussi, juste un autre truc que j'ai envie de dire, c'est vraiment par rapport à ce qu'on pense qui n'a pas de substance. Et justement, le pas de substance, c'est de la substance aussi. C'est de se dire, moi, tous les jeux que je joue, je fais juste peser sur des boutons, puis tu sais, ça a aucun impact sur moi. Ben ça a plus d'impact que vous pensez, justement. Si vous pensez justement que ça n'a aucun impact, ben parfait, je vous invite justement à aller chercher quelque chose que vous pensez. Encore une fois, c'est que de l'opinion. C'est super important que cette expérience là ce soit une expérience personnelle. On ne demande pas à notre voisin quel jeu je dois jouer. Non, c'est vraiment une expérience personnelle à vous. Quel type de jeu vous fait ressentir quelque chose? Tu sais, il peut faire ressentir rien à tout le monde autour, tant que ça vous touche. Mais c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant de le faire. Donc, c'est quelque chose que je vous invite, donc à ceux qui nous écoutent, de nous faire un retour là-dessus. Là.
Ben, je vais commencer avant qu'on aille à la pause. Moi, notamment, lorsque j'étais plus jeune, j'ai beaucoup lu un livre écrit par Joseph Delaney qui s'appelle L'apprenti épouvanteur, puis ses suites. Puis lorsque je fais mes parties de Donjons Dragons, en fait, j'ai réalisé que j'ai certains noms qui reviennent en commun au niveau des noms de mes personnages. Sarah, John, ben ça, je m'en suis rendu compte que récemment. La raison pour laquelle ces noms-là, je les recycle puis je les ramène quasiment tout le temps, c'est parce que c'est le nom des personnages de l'apprenti épouvanteur que j'ai lu. John, c'est John Gregory, en fait, c'est l'épouvanteur lui-même. Puis ça, c'est quelque chose que ça m'était complètement sorti de la tête. Je l'ai lu quand j'étais très, très jeune. Sauf que j'ai écrit une histoire qui se passait dans un univers qui était sensiblement similaire et immédiatement, Mon référent vis-à-vis de ça, lorsqu'il faut que j'invente des noms, c'était d'aller chercher les noms dans ce livre-là. Fait que comme de quoi, ça a effectivement un impact. Sans plus attendre, on va aller à la pause et tout de suite après ça, nous allons pouvoir interviewer certains membres de l'équipe de Salut Gadou pour leur film qui va être, mon film aussi, notre film qui va passer le 4 juin au Musée National. Donc, on s'en reparle après la pause.
est tombé, on est debout. L'arbre est coupé, on tient le coup. Il y a une maison qu'il faut sauver. On est chez nous dans notre quartier. Personne prendra notre maison. Tant que pour elle, nous nous battrons.
On est déjà de retour après avoir écouté l'une des musiques de Salut Gadou, donc composée et écrite par Hélène Matt, qui avait été ma co-réalisatrice sur le projet. On a aussi entendu Spy Family, l'opening d'un anime dont je comptais vous parler cette semaine, mais avec la sortie de Stranger Things, c'est quelque chose que je vais peut-être remettre à la semaine prochaine. Mais pendant ce temps-là, on a avec nous la chance d'avoir deux des acteurs qui ont travaillé sur le projet. Donc bonjour à vous deux.
Bonjour.
Donc, si vous voulez vous présenter à nos auditeurs, dire un peu qu'est-ce que vous avez fait sur le projet, c'est quoi le rôle que vous avez joué, puis une partie de votre expérience, en fait. Pour ceux qui l'ignorent, Salut Gadou, en fait, c'est l'adaptation d'un livre qui avait été écrit par Malcolm Reed, qui parle d'un mouvement, s'était fait dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, lorsque la maison des jeunes Saint-Jean-Baptiste et d'autres endroits étaient censés se faire remplacer par des tours à condos. Finalement, cette mobilisation-là a eu lieu et a fait que ça s'est déplacé ailleurs. Et Salut Gadou, c'est une histoire qui a été remodernisée parce que dans le cadre du moyen-métrage, ça se passe dans nos années à nous, c'est-à-dire qu'on voit les personnages avec des cellulaires. Fait que c'est une réimagination de ce qui s'est produit. Et j'avais été le co-réalisateur. Donc, si vous voulez bien mentionner un peu ce que vous aviez fait, n'oubliez pas de vous présenter avec votre prénom et nom de famille.
Moi, je m'appelle Maya Fizet et je jouais le rôle de Geneviève, qui est un des rôles principaux du court-métrage. Et moi, mon expérience, ça a commencé vraiment au début du tournage parce que j'ai pas pu faire l'adaptation du livre comme d'autres personnes l'ont fait. Et
fait qu'il y avait eu un travail d'adaptation en amont là, qui avait été fait. Puis c'est entièrement les jeunes qui l'avaient fait, ça, dans le fond?
Oui, exactement.
Super.
OK, bon, ben moi, c'est Simon Thibault et j'ai eu le rôle... En fait, quand je suis arrivé dans le projet, c'était quand même tardivement. Le projet était déjà bien entamé quand moi, je suis arrivé. Mm-hmm. Et en fait, ça a fait juste que j'ai construit mon rôle à partir de, comme, de cadavres d'autres rôles. Donc, j'ai juste récupéré plein de répliques qui ont construit un personnage. Donc, moi, je suis passé d'un simple figurant à un des amis du, de Gadou.
T'as fait un Frankenstein de ta personne.
Exactement.
Super. Et comment c'était pour vous d'avoir joué sur Salut Gadou? Parce que en ce moment, en fait, on vient de gagner un prix, le prix intergénérationnel. Puis la projection va avoir lieu au Musée national des Beaux-Arts du Québec le 4 juin. Est-ce qu'il y a un stress, une anticipation? Est-ce que c'est à ça que vous vous attendiez quand vous vous êtes joint au projet?
Pas vraiment. Moi, je dirais que quand j'ai rejoint le projet, je m'attendais à un genre de petit projet communautaire qu'on
simple.
Verrait, ouais. Très simple, puis finalement, c'est vraiment plus gros que ce que je pensais.
Je t'avoue que même pour moi, ça avait été une surprise, parce qu'au départ, j'étais dans l'impression qu'on s'en allait vers un 10 minutes, mais finalement, au fur et à mesure du projet, les idées se sont mises à se bousculer, puis on s'était, particulièrement avec Hélène, on se disait « Ah, ça serait une bonne idée, on pourrait faire ça, on pourrait rajouter ci », puis aussi, moi, de mon expérience personnelle, j'avais vraiment aimé travailler avec vous autres, fait que c'était un peu notre prétexte aussi de continuer de travailler avec vous, de se dire « Ah ouais, mais on pourrait rajouter une scène juste pour eux autres, ça serait le fun ». Puis justement, comment c'était... Est-ce que c'était vos premières expériences de tournage?
Pour moi, ça l'a été, puis j'espère que ça va continuer.
Puis de ton côté, Maya, parce que je crois que t'as une agence, toi.
Ouais, je fais partie d'une agence et c'est vraiment pas mon première expérience de tournage, mais c'était quand même le fun.
Puis c'était quoi tes autres expériences de tournage avant ça?
Surtout de la figuration puis des rôles au théâtre.
OK, fait qu'il s'agissait de ton premier rôle.
Ouais.
Puis comment est-ce que tu avais trouvé ça? Est-ce que tu as peur de te faire juger lorsque le film va sortir? Est-ce que tu as une anticipation? Est-ce que tu as hâte?
Ben, j'ai quand même hâte de voir. Puis je veux dire, tout le monde juge, donc...
Ben, oui, tout le monde juge, mais il faut aussi garder en tête que c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Surtout que le projet, on le sait, il est bon. C'est quelque chose dont on peut être fier. Puis on a eu du plaisir pendant ce projet-là. Fait que si jamais il y a des gens qui décident de juger négativement dans leur coin, ben c'est pas le genre de choses. Faut savoir s'en prémunir.
Ouais, exactement.
Faut savoir faire attention à ça. Puis toi, Nassim, justement, c'est quelque chose. T'étais au courant du projet parce que ben on se connaît, ça fait très 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 longtemps. Mais toi, t'as rien vu là. T'es au courant de rien. Puis tu viens de découvrir à l'instant la musique de Salut Gadou en même temps que nos auditeurs. C'est quoi tes attentes vis-à-vis du film? Est-ce que tu as des impressions? Surtout ben, là, t'es en compagnie des acteurs, c'est l'opportunité de leur poser des questions, là. Peut-être même demander des autographes. Ça va peut-être devenir, très cool, ça, dans une dizaine d'années. Ça va valoir cher.
Ah, c'est sûr que les autographes, je vais les demander, ça, c'est sûr. mais c'est sûr, moi, j'ai hâte, là, le 4 juin, justement, c'est au Musée de la Civilisation. Musée national des Beaux-Arts, ok, d'accord. Donc, moi, j'ai très hâte, là, de.
À 13h et 15h.
Parfait, c'est ça. En fait, moi, j'ai très hâte de venir voir le film. Là, c'est très intéressant pour moi, des jeunes justement qui font dans l'art, etc. C'est extrêmement intéressant. Nous, justement, on avait commencé vers...
Ben, c'est avec toi que j'avais commencé le cinéma, hein.
C'est ça, exact. On avait commencé vers 16 ans, faire les courts-métrages et tout. C'est vraiment le fun. C'est je trouve que surtout quand tu es jeune, de faire ce type de projet là ça a un impact extrêmement bénéfique dans ta construction, tu sais, vers l'âge adulte aussi. Ça te libère un monde de création, de créativité. Puis tu sais, moi j'ai pas évolué dans l'art, moi je suis ingénieur, mais malgré ça, je trouve que dans mon activité d'ingénierie, le fait d'avoir eu une sorte de background artistique m'aide, parce que je suis beaucoup plus créatif, j'ai moins peur dans les projets que j'avance. Tu sais, the sky is the limit, là, littéralement.
Ben, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose que vous partagez avec Nassim? Est-ce que vous avez l'impression que ce projet-là a élargi vos horizons?
Ben moi, j'ai pas mal toujours voulu faire ça. Fait que j'étais juste très content de pouvoir commencer un projet où est-ce que qui pouvait me faire rentrer dans ce monde-là du cinéma.
Est-ce que tu étais surpris par le fonctionnement dont ça se faisait? Je sais que très souvent, des acteurs, quelque chose qui les surprend, c'est de se rendre compte qu'on va refaire 5, 6, 7, 8 fois la même scène, le même plan. C'est juste que la caméra va bouger un peu. Là, prise 1, prise 2, prise 3. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'avait surpris?
Ben, pas vraiment, parce qu'à mon école, je fais partie d'un programme qui est comme fait pour le cinéma. Puis c'est des affaires qu'on voyait beaucoup parce qu'on faisait des petits courts-métrages, des petites publicités. Mm-hmm. Fait qu'on comprenait un peu par nous-mêmes comment ça devait se faire dans le milieu un petit peu plus professionnel.
OK. Puis de ton côté, Maya?
De mon côté, comme j'ai dit, j'en faisais déjà un peu, mais c'était un peu pareil. Ça m'a vraiment pas élargi les horizons, mais ouais, un peu.
Dans le fond, ça a été une expérience qui t'a permis de comprendre certaines choses que tu avais déjà conscience que, mais que c'était pas encore tout à fait
ouais, exactement.
Acquis. Puis ça a été combien de temps de tournage, ce projet-là?
Je pense que c'était un mois et demi.
Un mois et demi?
Ouais.
Ben, en fait, ça a commencé en juin 2021, puis ça a continué jusqu'à il y a encore quelques semaines.
Il y a encore quelques semaines, pour quelle raison?
Ben en fait, parce qu'il y avait eu aussi d'autres réunions pour préparer la première. Il y a eu d'autres affaires aussi. Il y a eu d'autres projets avec Hélène. Donc,
C'est ça. Puis c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais il y a une étape de pré-production. Vous l'avez mentionné, c'est d'autres jeunes qui avaient travaillé avec elle, notamment, qui avaient fait le scénario, qui avaient commencé les préparatifs, les lieux de tournage, ce genre de choses-là. Fait que déjà, il y a un travail en amont parce qu'on a un mois et demi de tournage, mais avant ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Puis une fois que le tournage est fini, ben, il reste le montage. Je sais aussi qu'il y a un moment où t'as eu à t'exercer à faire du doublage, Maya?
Ouais, j'ai dû redoubler ma propre scène.
Pourquoi?
Parce qu'on entendait trop... Ça se passait dans la côte Salaberry. Ça se passait dans la côte Salaberry, puis il y avait trop de voitures, puis trop de bruit de feuilles, parce que ben, c'était l'automne. Donc, on a dû tout refaire le son pour cette scène-là.
Exact. Puis ça, c'est des contraintes avec lesquelles il faut savoir jouer. Puis moi, c'est ce que je me plais souvent à mentionner avec toi, Nassim. L'ingénierie puis le cinéma, c'est similaire dans le sens où t'as un problème, tu dois trouver une solution. Fait que là... Le truc, c'est que c'est pas possible de bloquer une rue entière comme le ferait par exemple des studios hollywoodiens qui eux possèdent de gros budgets. Fait que ben, c'est de trouver des petites astuces, que ce soit avec nos acteurs, que ce soit au niveau du montage. Puis justement, vous, des astuces au niveau de votre acting, est-ce que c'est des choses que vous avez développées au cours de votre tournage? Est-ce qu'au départ, vous interprétiez le rôle d'une certaine façon, puis vous êtes dit « Ah, peut-être que ça serait mieux si je faisais ça ». Est-ce qu'il y a une évolution, en fait?
Ben, pas vraiment pour moi, parce que comme je disais, vu que je suis arrivé quand même relativement tard dans le projet, c'est que il n'y avait pas déjà un personnage préécrit pour moi, donc j'ai comme juste joué mon propre rôle. J'étais moi-même dans le film.
Puis est-ce qu'il y a quelque chose de stressant, en fait, de jouer soi-même, ou tu trouves qu'au contraire que c'était libérateur?
Ben, en fait, c'est juste que je trouve que ça permet d'être plus naturel dans ta manière de parler, de bouger, de tout. Mmh.
Puis ça, c'était pas quelque chose qui vous stressait que d'être devant la caméra?
Absolument pas.
Ah non plus.
Super. Ça, c'est des choses qui sont super le fun. Puis aussi, je me rappelle pendant le projet, parce qu'en fait, vous connaissez Maya, mais à travers certaines de mes anecdotes, dans le sens où moi, ça m'arrive de mentionner des anecdotes de jeux de rôle de Donjons Dragons. T'es une de mes joueuses, en fait, notamment. Puis c'est un truc que je trouve le fun, parce que je vois un peu qu'il y a une relève qui est en train de se créer. Lorsque, par exemple, moi et Nassim, on en avait fait partie à l'époque. Tu sais, moi, j'étais dans les clubs de Donjons Dragons, j'avais commencé à m'impliquer dans le cinéma. Puis là, je vois que il y a une bonne partie des jeunes qui ont travaillé sur Salut Gadou, que la musique que vous avez entendue tout à l'heure pendant la pause, ce sont des jeunes qui ont participé au projet, c'est eux qui ont fait la musique. Donc, il y a... C'est les jeunes de ce projet-là, en fait, qui vont faire la relève artistique dans les 5, 6, 7 prochaines années. Fait que ça, moi, c'est quelque chose qui vient me toucher beaucoup, parce que je me dis, ça a participé à former la relève. Est-ce que vous sentez un poids à dire que c'est vous qui dans quelques années vont donner le ton du milieu artistique de Québec?
Je dirais pas que c'est un poids, mais c'est quand même une opportunité plus qu'un poids.
Puis justement, parlant d'opportunité, est-ce que ce projet-là, ça vous en a donné d'autres?
Beaucoup.
Oui.
Comme quoi?
Ben, c'est sûr qu'il y a eu l'autre projet avec Hélène, qui était un projet de correspondance avec des personnes âgées, qui va aboutir sous peu sur un court-métrage.
OK. Ouais.
Puis même ça, en fait, c'est que je trouve que c'est cool parce que ça nous permet d'accumuler de l'expérience pour, ben, par exemple, moi qui veux me rendre plus loin dans le cinéma. Parce que, ben, comme tu disais, c'est cool d'être la relève parce que c'est toujours ça que j'ai voulu faire.
Mm-hmm. Puis justement, ce projet-là, de quoi est-ce que ça parle, en fait? Est-ce qu'on est encore dans les mêmes thématiques qu'on touche dans Salut Gadou, ou est-ce qu'on se déplace de la mobilisation pour aller vers un autre sujet?
Ben là, on est peut-être un petit peu plus dans un projet, disons, de poésie, parce qu'en gros, c'est qu'on écrivait des lettres, mais il y avait plein de choses. Il y en avait qui écrivaient des poèmes, qui écrivaient juste comme s'ils parlaient. Puis c'est ça, en fait, c'est que c'est pas... ça a vraiment rien à voir avec Salut Gadou. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est les acteurs et la réalisatrice.
OK. Fait que c'est des gens avec qui vous avez déjà travaillé. Fait
exactement.
Que ça,
c'est
quelque chose qui vous met à l'aise, j'imagine, que de retravailler avec les mêmes gens?
Ben, personnellement, oui. Je saurais pas.
Ben, c'est ce qui est cool, c'est que aussi, Salut Gadou, ça aboutit comme à la création d'une gang, là, parce que avec tout le monde de Salut Gadou, on continue de se voir, de se parler. Fait que c'est le fun.
Ben, c'est ça aussi qui est cool avec le cinéma, c'est son aspect rassembleur. Je sais que certains des amis que vous vous êtes fait sur le tournage, en fait, vous les voyez encore à l'extérieur du tournage, vous parlez encore. Puis je sais aussi que dans ton cas, Maya, tu vas participer à un projet dont le réalisateur est pas du tout en train de se plugger, qui s'appelle Dédale et Magie. J'en profite pour faire ma petite plug, j'ai une émission de radio, j'en profite. Mais est-ce que ces opportunités-là, c'est vous qui êtes allé vous les créer au final ou est-ce que vous avez l'impression que ça vous a été apporté?
J'ai l'impression que ça nous a été apporté parce que justement, avec la gang, on pouvait se parler de d'autres projets, puis comme ça, on avait plus de projets en groupe.
Mm-hmm. Ben, au final, moi, j'ai envie de dire que c'est vous qui avez créé ces opportunités-là, puis c'est ça qui est important, je pense, avec le milieu artistique, parce que comment tu m'en parles, ben, si c'est parce que vous parliez entre vous, si c'est parce que vous avez maintenu vos liens, ben, le fait que vous ayez participé au projet des autres puis que vous commencez à vous impliquer, ben c'est comme ça un peu que ça fonctionne le milieu du cinéma. Je veux dire, avec Nassim, on allait à des soirées réseautage. Puis ben, si tu veux pouvoir travailler sur les projets de certaines personnes, il faut que ces gens-là sachent t'es qui. Parce que si tu sors pas, si tu restes à l'intérieur de chez toi, ben, c'est correct, mais il faut pas... Faut pas que tu t'attendes à faire des projets. Fait que moi, je me donnerais moi-même une tape dans le dos si j'étais vous, parce que bah vous êtes allé de l'avant. Puis la raison pour laquelle vous avez d'autres opportunités, bah oui, c'est grâce au projet de Salut Gadou qui, je le répète pour les auditeurs qui viendraient d'arriver, c'est le 4 juin au Musée national des beaux-arts du Québec, 13h et 15h. Mais c'est vous qui avez créé ces opportunités-là parce que vous êtes allé de l'avant, vous avez discuté, vous avez continué de créer des liens avec les gens que vous étiez. Il nous reste encore une minute avant de devoir retourner à une mini-pause. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez mentionner par rapport au projet? Est-ce que au niveau de votre vécu, c'était comment l'attente au niveau de la post-production? Parce qu'il y a eu, je pense, un 3 mois. En fait, vous avez toujours pas vu à quoi ressemblait le projet final. Hein? Il y a une anticipation de ce côté-là?
Moi, je dirais que oui, parce que on veut voir à quoi ça ressemble, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, mais on le saura pas avant le 4, justement.
Puis ça, c'est comment de vivre cette sensation-là, parce que j'imagine que ça doit être très similaire pour de nombreux acteurs, même à Hollywood. Fait que ça, c'est quelque chose que vous partagez avec eux, au final, là. Cette anticipation de ne pas savoir, de voir que votre image est entre les mains d'autrui.
Ben, c'est sûr que oui, notre image est entre les mains d'une autre personne, mais même cette personne-là, je veux dire, on a quand même discuté sur le tournage, fait qu'on la connaît un minimum. Puis même, je veux dire, Salut Gadou, c'est pas un projet qui nécessite énormément d'effets spéciaux, d'affaires comme ça, vu que c'est inspiré d'une histoire vraie.
Mm-hmm. Ben, c'est avant tout un projet qui a pour but d'être rassembleur, hein, puis ça fonctionne avec la thématique du livre, où ben, c'est une mobilisation qui s'est faite dans Saint-Jean-Baptiste, puis on l'a mentionné tantôt, on a gagné un prix intergénérationnel, mais ça, c'est parce que dans le film, on a des jeunes, on a des adultes, on a des personnes qui sont proches de l'âge de la retraite. Tout le monde a participé à ce projet-là, puis c'est le film de Saint-Jean-Baptiste au final. C'est pas que notre film à nous. Donc, je vous invite à venir le 4 juin regarder un projet de mobilisation au travers de tout le quartier Saint-Jean-Baptiste afin d'encourager aussi les jeunes acteurs de la relève. Est-ce que vous voulez un mot de la fin?
On espère vous voir à la première.
Ouais.
Parfait. Et donc, sans plus attendre, on va retourner à la pause et on va entendre la musique, l'opening de Stranger Things. On est donc déjà de retour de la pause. On vient d'entendre la musique thème de Stranger Things, une série originale Netflix. Qui traîne depuis un certain temps, en fait, qui est là depuis 2012, si je ne m'abuse, et qui est un peu la série phare de la plateforme de streaming Netflix, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de gens, moi inclus. On a commencé à se joindre à la plateforme de streaming pour cette série. Et la saison 4 est récemment sortie. Je ne sais pas si tu en as un peu entendu parler, toi, Nassim?
Non, pas vraiment. C'est vraiment pas le type de truc que j'écoute, là. Je serais vraiment curieux, justement, d'écouter là, ce que tu vas nous dire par rapport à ça. Peut-être que ça va piquer ma curiosité pour regarder ça. Là. Mais dans le fond, moi, ces trucs-là, je triche un peu. Je regarde des résumés sur Internet pour être cool. Là, ça, j'avais fait avec Games of Thrones. Là.
C'est pour avoir des sujets de conversation avec les collègues. Oui, Stranger Things, en fait, c'est une série qui a été conçue par les Duffer Brothers, donc les frères Duffer, qui parle, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des années 70, des années 80. C'est-à-dire qu'on est à plus ou moins dans la guerre froide, lorsque la situation entre la Russie et les États-Unis, ça va pas tout à fait bien. Puis on suit un groupe de nerds, donc, qui, durant la première émission, eux, ils ont un groupe de Donjons Dragons, un groupe de D&D. Puis, ce qui est fort avec cette série-là, parce que je veux essayer de divulguer le moins possible, donc je vais simplement vous donner la prémisse de la saison 4, c'est que certains personnages que l'on pensait morts sont en fait coincés en Russie, dans une prison du KGB. Et d'autres personnages, eux, doivent réapprendre à vivre avec les expériences qu'ils ont vécues lors de la saison 2 et de la saison 3. Ces personnages-là, en fait, ce qui est fort, ce qui, je trouve, qui est très intéressant avec la saison 4, puis c'est quelque chose qu'on voit avec les précédentes saisons aussi, c'est que la réalisation est tellement réfléchie à ce niveau-là. Je vais penser notamment à certaines transitions où, ce que, par exemple, on a un personnage qui va commencer à rouler avec son vélo, on va entendre le bruit du vélo, on va voir la roue du vélo. Tout de suite après, le plan d'après, ça va être un moteur qui est en train de fonctionner, qui tourne. Puis ce moteur-là, en fait, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait qu'un des personnages est en danger. Ou alors, il y a une scène très rapide où ce que les personnages sont en vélo et il y a d'autres personnages qui sont dans l'autre côté, le monde à l'envers, parce que le principe, c'est on est à l'intérieur de la guerre froide, mais il y a des événements surnaturels qui se passent dans la petite ville de Hawkins. Et dans Hawkins, il y a ce monde à l'envers-là qui est un monde dans lequel il y a de nombreuses créatures, donc le démon Gorgon notamment, viennent passer au travers de l'au-delà. Dans la série Stranger Things, la réalisation qui est particulièrement léchée, qui est, je pense que je peux pas mentionner en fait à quel point elle est spéciale, dans le sens où tous les plans de caméra, sans exception, il y a du mouvement, il y a s'il faut qu'on ait l'émotion du personnage, on va l'avoir, c'est quasiment des plans séquences, c'est-à-dire qu'on a des plans qui vont durer 5, 6, 7, 8, 10 secondes et au-delà, mais on a l'impression qu'il y a eu des changements de plan, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on va être au niveau du visage du personnage pour vivre son émotion, on va se reculer, puis on va aller explorer tout ce genre de choses-là. Puis la thématique principale de la saison 4, c'est cette espèce d'isolation que les personnages vivent. Isolation qui, je trouve, est encore une fois un thème qui est très d'actualité. Dans le sens où même lorsqu'on va regarder l'affiche, le poster de Stranger Things, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a un tunnel, puis les personnages qui sont isolés les uns des autres vont chacun marcher sur un morceau du mur. C'est-à-dire qu'on a elle, qui est le personnage principal, qui, elle, possède des pouvoirs, qui marche sur un premier morceau du mur. Ensuite, on a une autre partie du groupe qui, elle, marche sur le côté gauche du mur, une autre partie du groupe qui marche sur le côté droite. Mais puisqu'on doit bientôt terminer l'émission, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de commencer la saison 4 de Stranger Things, qui est actuellement sur Netflix, composée de 7 épisodes. Et ces 7 épisodes-là, donc, moi, je les ai dévorés d'une traite. Tout simplement parce que les thématiques, la réalisation, le travail des acteurs, on les a connus alors qu'ils étaient très très jeunes, ils avaient 9-10 ans. Maintenant, ce sont des adultes, ce sont des acteurs pleinement formés. Puis il y a quelque chose de beau à voir cette transition qui se fait, un peu comme pour en venir au projet de Salut Gadou. D'ailleurs, je tiens à mentionner, j'ai fait une erreur, ce n'est pas 13 et 15 heures, c'est 11 heures et 15 heures au Musée national des Beaux-Arts du Québec. C'est agréable de voir les acteurs évoluer, de voir leur progression, puis de voir qu'au fur et à mesure des projets, ils trouvent leur style, ils se cherchent et ils viennent qu'à s'accomplir. Donc, on se revoit la semaine prochaine à des Kiwis et des Nerds pour parler de d'autres chroniques, faire d'autres chroniques en compagnie de peut-être Nassim, si tu veux nous faire un tour du chapeau plus un. Je sais pas comment est-ce que ça s'appelle.
Je sais pas, là, mais...
On va trouver la définition.
Rendu là, c'est mon émission, là, fait que... Mais oui, avec plaisir. Donc, on va vous revenir la semaine prochaine. C'était intéressant aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la réflexion que je vous ai donnée. Je vous lance vraiment le défi, OK, de briser vos habitudes artistiques, OK, quelque chose de nouveau. Allez dans le positif, je vous conseille quand même, briser les mauvaises habitudes, les trucs négatifs, allez vraiment dans le positif, puis vous nous en donnerez des nouvelles, ça change votre vie, là, je vous le dis.
Et donc à la semaine prochaine.
Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Le soleil et la chaleur du mois de mai en font le moment idéal pour bouger à l'extérieur. Que vous soyez marcheur ou coureur, de type asphalte ou sentier, chez Pradette Sport, nous avons un grand choix de vêtements et de souliers pour la course et la marche, en plus d'une équipe de spécialistes pour vous conseiller. On a même un tapis roulant pour vous permettre d'essayer avant d'acheter. Vous préférez magasiner en ligne? Tout est disponible sur notre site. Pour la course et la marche ce printemps, faites un arrêt chez Pradette Sport.